Voilà, on se retrouve dans Bouquins en Bretagne. On vient d'écouter le groupe Zebda en compagnie du Bagad de Carré. Nous avons écouté Robert Gauthier précédemment. Maintenant, on va retrouver Pascal Prats. Alors, Pascal, tu vas nous parler de peut-être ta dernière publication, à moins qu'il y en ait eu depuis. C'est Promenade en lutte, version intime avec classe, publiée aux éditions du Petit Pavé. On s'était vu il y a pratiquement 4 ans. Qu'es-tu devenu pendant ce laps de temps et qu'as-tu fait? Parce qu'on voit régulièrement des articles te concernant, donc certainement il y a eu pas mal d'activités durant ce temps.
Oui, on était en train d'en parler par micro, là, on est des fainéants qui nous ignorons, il n'y a rien de pire qu'un fainéant quand il se met au travail, n'est-ce pas? Et j'ai fait beaucoup de choses en sortant d'ici en octobre là, 2008, à peine j'étais sorti de là, que j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Asphodel, et qui donc, dont le siège social est à Bouguenay. Au jour d'aujourd'hui, il y a pratiquement une trentaine de titres au catalogue, en 4 ans, c'est pas mal. Évidemment, je fais ça comme bénévole, ça me rapporte absolument rien. Hein. Mais c'est bon, une partie, disons 50% de mon emploi du temps maintenant. Et à part ça, depuis 2008, j'ai dû publier 5 bouquins, je crois. Le dernier, au Petit Pavé, c'est celui-là. Le Petit Pavé, c'est mon éditeur fétiche. Hein,
c'est Gallimard.
C'est là que je fais à peu près tout. Non, mais c'est vraiment extra. Mais le Petit Pavé, ça commence vraiment à être une boîte connue. Hein. Là, celui-là, c'est un bouquin un peu spécial. C'est donc mon dernier roman, si tu veux. Comme tu l'as remarqué, il se trouve que c'est un roman qui sous une couverture réunit 3 romans.
Alors déjà, on peut parler de la couverture, on parlait tout à l'heure. Ici, c'est une affiche, un point levé sur une cheminée d'usine. C'est une affiche qui date de mai 68.
Qui date de 68,
qui donne déjà une couleur au livre, et puis avec une couverture noire. Et cette affiche en...
Ouais, puis il y a un petit jeu de mots, promenade en lutte, version intime, ça veut dire que je vais parler de comment j'ai vécu ça. Et avec classe, c'était bon, lutte, classe, voilà. Je refais le tour de la soi-disant disparition de la lutte de classe, on en parlait déjà tout à l'heure.
Tu as réuni dans ce livre, il y a 3 romans, d'ailleurs c'est bien écrit, roman au pluriel. Hein, alors pourquoi avoir voulu de... mettre trois histoires, si tu veux, entre guillemets, dans ce
l'origine de ce bouquin, c'est 2007. Enfin, c'est le NABO là, qui nous vient nous dire qu'il va falloir qu'on travaille plus pour gagner plus. Hein, bon. Et bon, ça va complètement à l'encontre de mes convictions. Quoi. C'est-à-dire, je trouve ça vraiment choquant. Je suis vraiment bouleversé, choqué par cette idée qu'on fait un retour en arrière. C'est-à-dire que... On en parlait tout à l'heure avec Robert. Depuis La Fargue, quoi. C'est quand même La Fargue. C'était un bouquin de. Enfin, il a écrit un bouquin en 1800 quelque chose là. Je sais pas, 60, 70. C'était le gendre de Marx et il fait un truc qui s'appelle Le droit à la paresse, dans lequel d'ailleurs il n'est pas très tendre avec la classe ouvrière. Hein. C'est-à-dire que, moi, ce que j'en ai retenu, quand je le relis, pour y retrouver. Des phrases qui sont assez dures, hein. C'est-à-dire, il s'en prend un peu à la classe ouvrière en lui disant que si elle arrêtait de se traîner comme ça devant les patrons, peut-être que les conditions de vie s'amélioreraient et que je trouve que vraiment, enfin, hélas, on vit une époque où on voit bien ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire, tu sais bien le travail à mi-temps forcé, tu sais bien le travail le dimanche soi-disant libre, etc. Bon, il m'a semblé à cette époque-là, il m'a semblé important de revenir sur ce qui nous avait fondé, quoi. Enfin, tu vois, 68, mais pas que 68. Hein, toute l'histoire. Bon, je viens d'une famille communiste, hein, communiste dès l'origine, c'est-à-dire 1920. Mon grand-père et ma grand-mère sont membres du Parti communiste. Ils se font virer, d'ailleurs, etc.
Oh, ça arrive.
Et il terminera chez Citroën, parce qu'il était alsacien aussi. Donc, voilà.
Ça arrive aussi.
Alors, ça, Pascal, on va pas aller trop vite. Alors, déjà, on revient un peu sur l'avant-propos qui est très intéressant, parce qu'en fait, tout est dit pratiquement dans l'avant-propos du livre. Autobiographie, autofiction, fiction, mémoire, vieux combat, esprit de contradiction, lutte passée, présente et future. Donc, il y a une lutte permanente, hein, chez toi.
Bah, j'ai ça le caractère, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est ça, c'est vraiment, oui, j'ai ça le caractère, quoi. J'arrive pas, quoi. Voilà.
Bon. Alors, le premier roman dans ce roman s'intitule de Révolte et déchirement. On retourne en mai 68. À l'époque, tu as quoi? 16, 17 ans, à peu près, en 1968. Revenons sur cette partie, parce que j'ai trouvé cette partie du livre particulièrement intéressante, où il y a un jeune homme qui une conscience qui s'éveille. Tu as parlé de ton père qui était communiste, qui travaillait en usine. À côté, il y a tout ton intérêt aussi pour la littérature, le théâtre, et aussi l'éveil d'un adolescent par rapport à l'amour. Hein. Il y a plein de choses en même temps. Revenons sur cette période-là, parce qu'elle est très intéressante, justement.
Ouais, si tu vas, il y a quelque chose qui m'échappe encore dans ce texte, c'est le moteur. C'est-à-dire, on a l'impression que j'ai vraiment une hélice aux fesses, quoi. Je vis à une époque à Boulogne-Billancourt, c'est-à-dire la patrie des usines Renault. À l'époque, c'est encore la patrie des usines Renault, c'est-à-dire que toute la partie Billancourt, c'est classe populaire, etc. C'est pas du tout la ville d'aujourd'hui, quoi. Et puis, effectivement, il y a une partie riche à Boulogne, mais c'est vers le bois de Boulogne, par exemple, vers le 16e, quoi. Et donc là, on est entre nous, quoi. Enfin, on est entre ouvriers, fils d'ouvriers, etc. Je raconte là-dedans que le franchissement des étapes dans mes études, si tu veux, quand j'ai mon bac, je suis un sur tout l'immeuble, enfin tout le pâté de maison. Quand j'ai mon DOG, c'est-à-dire bac plus 2, je suis un sur la moitié de la ville. J'exagère un peu, mais enfin bon,
un quart,
ouais, d'accord. Et puis alors quand j'ai bac plus 5, alors là. Enfin là, je rencontre un prof entre les deux qui me dit alors là, j'en connais pas d'autres, quoi. Ouais.
Enfin, bon. On aurait pu. Hein, je pense que peut-être on peut, du moins si dans cette partie-là, tu fais l'autobiographie, hein, quand tu parles de tes parents, t'ont quand même soutenu. On sent quand même des rapports assez intéressants, notamment même avec ton père. On peut penser que lui travaillant en usine, t'aurais pu être destiné à partir très rapidement, à quitter les études pour aller en usine.
Oui, ça m'est passé. Des moustaches quand même, hein, parce que à l'époque, faire des études secondaires pour un fils d'ouvrier, c'était déjà on se rend pas compte, hein, mais c'était il y a 45 ans, 44. Faire des études secondaires pour un fils d'ouvrier, c'était pas du tout la norme, quoi, mais pas du tout. Et en fait, le seul lycée qui était disponible dans l'arrondissement où j'habitais, c'était le lycée Claude Bernard, c'était un lycée du 16e où je côtoyais. C'est dit aussi dans le livre, à l'époque, c'est la partie autobiographique, si tu veux, on est dessus, là. Je côtoyais à l'époque des gens qui venaient en voiture sans permis à l'école, hein, en 1969, quoi, 8-9. Hein, et je me suis fait virer, évidemment.
Quoi. T'as pas gardé de relation avec tous ces gens qui...
Non, aucun.
Ça aurait pu nous aider sur Alternante.
Ouais,
Est-ce que, revenons sur les événements même de mai 68 que tu as vu, est-ce que ça a une influence sur toi ou pas? Parce qu'après, tu fais part aussi même des désillusions qu'on a pu avoir, hein, rapidement.
Ouais, enfin, 68, oui. Enfin, c'était une explosion, mais c'était incroyable, quoi.
T'avais quel âge en 68?
16 ans.
16 ans, hein.
Ouais. Et pile 16 ans, quoi. Mais bon, comme on le disait déjà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes. J'aime bien répéter cette phrase, c'est que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais tu disais tout à l'heure un truc sur la culture, etc. Alors pour moi, c'est totalement relié. Hein. À l'époque, il y avait les compagnons de route du Parti communiste. Bam, ça s'alignait. C'était Picasso, machin, truc muche, Aragon. Enfin bon, le milieu communiste était un milieu qui voulait sortir de sa condition. Mais par l'éducation.
Éduquer, ouais.
Ouais. Alors, ils ont forcé un peu le trait, c'est-à-dire que... petit livre rouge, machin, truc plus. Bon, il y en a certains qui sont allés un peu loin. Mais 68, oui, une désillusion, forcément, parce que moi, en 68, j'ai participé à l'explosion, si tu veux. J'ai fait quelques manifs, je suis allé discuter avec des gens, j'étais politisé déjà à cause de mes origines familiales. J'avais donc un niveau de discours, si tu veux, qui tenait la route à l'époque. J'étais moi-même déjà plus ou moins communiste, c'est-à-dire plus libertaire déjà. Bon, et donc j'ai vécu beaucoup de choses. Et puis évidemment, j'ai rencontré nombre de fils de bourgeois, même nombre de fils de grands bourgeois. Et si tu veux, il y a eu, tu sais, le système s'enrichit toujours entre sa marge et sa limite. Donc j'étais entre la marge et la limite. Et Et j'ai fait partie des gens qui ont été récupérés, si tu veux, c'est-à-dire dont on se servait du savoir pour enrichir autre chose, tu vois. Et aujourd'hui, si tu veux, moi j'ai un truc, là, j'ai envie de te parler de ça, mais le dernier qui se revendique du marxisme en France, c'est Alain Minc, hein. Ça prouve bien que les systèmes capitalistes s'enrichissent toujours de ce qui se passe loin d'eux, c'est-à-dire dans leur marge. Hein.
Lui, bon. Lui,
et moi, j'ai fait partie de ça. Et évidemment, j'ai été floué parce que je suis pas un grand bourgeois et que les fils de grands bourgeois, dès qu'ils ont eu pressé le citron, ils m'ont jeté. Voilà.
On voit aussi l'intérêt, bon, forcément pour la lecture, aussi pour l'envie d'écrire, le théâtre aussi, ouais, que tu approches.
Ouais. Oui, bah écoute, c'était une époque formidable. Enfin, quand on dit ça, on a l'air d'un vieux machin. Mais bon, c'est vrai, quoi. Je souhaite à tout le monde de reconnaître ça un jour, quoi. À tous les jeunes d'aujourd'hui, je leur souhaite de connaître ce bouillonnement. Enfin, c'était incroyable. On écrivait, on faisait du théâtre, on allait au théâtre, on passait sa vie à discuter. Il y a une copine l'autre jour qui me disait, qui est beaucoup plus jeune que moi, mais dont les parents ont vécu cette époque, qui me disait, c'est dingue, on passait les soirées à s'engueuler, mais vraiment à s'engueuler, à se traiter de tous les noms, quoi. Et le lendemain matin, c'était fini. On pouvait élever la voix dans une enceinte, se dire ce qu'on pensait vraiment les uns des autres. On était toujours dans la dialectique, toujours, toujours, toujours. On causait toujours. Et ça n'avait pas de conséquences. On échangeait des idées. Et aujourd'hui, quand tu discutes avec quelqu'un, si tu te fâches, tu vois tout de suite que tu as changé d'époque. Hein.
Donc ça, c'est l'une des histoires. On va avancer un peu. La seconde histoire, même si on passe très vite sur ce qui pourrait être une petite nouvelle, c'est variations autour d'une mandale. Et on peut. Alors moi, j'ajouterais ce qu'une gifle peut entraîner, mais ça, c'est très court.
Ouais, ouais. Et c'est un contrebalancement du roman, en fait. C'est-à-dire, le roman raconte une histoire qui se déroule d'une certaine manière. Et là, en quelques pages, je démontre que ça aurait pu se passer, mais totalement différent. Et c'est le cas.
Voilà, hein, ça, on voit qu'un événement, à la limite anodin, peut aussi transformer la vie.
Voilà, je suis riche de tout ce que j'ai vécu, mais j'ai tout à fait conscience que ça s'est passé à des riens, que j'ai eu mon bac finalement à un rien, que, enfin voilà, bon, ça s'est passé à des riens, quoi.
Alors donc pour revenir à la deuxième histoire qui s'intitule « Il n'est rien de pire que de savoir de quoi se plaindre », tu te mets dans la peau d'une avocate, on voit que c'est une avocate qui est malvoyante, qui est homosexuelle, et on apprendra même à la fin de l'histoire, qu'elle a encore d'autres. On peut parler de sa couleur, justement. Donc, c'est l'occasion pour toi, là, d'envoyer. Et là, on retrouve des problèmes très actuels, hein, puisque tu abordes plein de questions dans la société aujourd'hui, qui sont les problèmes de la société actuelle, ici, en France et ailleurs.
Ouais, c'est pas mal vu, d'ailleurs. Je trouve que vraiment, les débats en ce moment, là, sur le mariage homo, tout ça, etc., c'est vraiment dedans, quoi.
Hein, surtout que ces écrits-là remontent à déjà quelques mois,
ouais,
donc là, tu es en plein dedans. Hein.
Ouais, en gros, hein, je répète, ce livre doit sa naissance à 2007, donc il a été écrit entre 2007 et... tu vois, bon, 2009, ouais, un truc comme ça. Bon. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il paraisse pendant le règne de Nicolas Ier, là, mais il n'en a pas été question. Il est sorti un peu tard, je trouve. Tu vois, j'aurais bien aimé que ce soit...
Fallait mieux voter.
Ouais, d'accord. Et voilà, ça raconte, enfin, je sais pas quoi.
Non, parce qu'il y a la, oui, c'est surtout les sujets d'aujourd'hui. On parle des gens mal logés, des femmes battues, des sans-papiers. On parle aussi de l'intégrisme. Il y a plein de sujets qui sont abordés dans un métier d'avocat et d'avocate, ouais, justement, ouais, puisque ouais. Tu es la narratrice, je dirais, puisque ouais, tu ouais. mets dans cette peau de cette avocate qui a ses problèmes personnels et qui à côté aussi défend un certain nombre de causes. On sent que c'est quelqu'un qui est quand même qui est un peu la terreur des palais, hein, puisque
je rêve parce que j'ai pas l'impression que ça existe vraiment, hein. Mais on a connu des avocats comme ça qui étaient capables de se dévouer pour des causes ou les voilà et qui en avaient pas grand chose à faire de leur avenir, de leur carrière. Enfin,
surtout pendant la guerre d'Algérie.
Oui, par exemple, oui, par exemple. Ah, oui, c'est ça. En plus, très bonne remarque. Très bonne remarque, parce que dans mon parcours de néo-68ard, il y a la guerre d'Algérie. Hein. Ça, c'est un truc, un point important.
D'ailleurs, je me demande si tu l'abordes pas dedans, dans ce livre.
Mais écoute, la dernière phrase du roman qui parle du deuxième roman de ce livre, c'est « Il avait raison, mon ectoplasme », parce qu'un soir, elle est dans une soirée, elle connaît pas la personne avec à côté de laquelle elle est assise, elle est aveugle, donc elle peut pas, elle a pas de moyens de connaissance. Hein. Elle suppose qu'il y a, voilà, et ils échangent quelques mots, et il lui dit, la phrase qui va déterminer sa vie, il y a jamais rien de pire que de savoir de quoi se plaindre. Et donc, si tu reprends maintenant à l'envers tout le roman, tu t'aperçois que, alors, c'est les jeunes de cité qui se font arrêter par la police. La police est en tort, mais les jeunes de cité choisissent de se défendre sur le thème. Ils sont racistes. Et là, elle dit stop. Stop. C'est une histoire de droit. C'est pas une histoire de racisme. Vous avez rien fait. Vous êtes pas en tort. Ils devaient pas vous traiter comme ça. Ils vous traitent comme des chiens. Eh ben, on va dire qu'ils vous traitent comme des chiens. Pas comme des Arabes. Ils vous traitent comme des chiens. Et vous-même, cessez de mettre tout le temps en avant le fait que vous êtes arabe pour expliquer ce qui vous arrive. On vit dans un état policier. Là, vraiment, en ce moment, il n'y a pas de doute, voire Notre-Dame-des-Landes. On vit dans un état policier, de plus en plus policier. Et si on emmerde les jeunes, effectivement, parce qu'ils habitent des cités, qu'ils sont dans des ghettos, etc., la défense qu'il ne faut surtout pas sortir, parce qu'il s'agit on est dans un état on devrait être dans un état de droit, la dernière défense à sortir, c'est « Vous faites ça parce que je suis arabe. Hein? » Parce que t'accrédites quelque chose, en vérité. Toi-même. Toi-même, tu dis aux autres « Oui, mais enfin, c'est comme moi, par exemple, je n'arrête pas de me cogner la tête dans tout ce qui dépasse, parce que je fais 1m90. » Et donc, voilà, je pourrais dire « Ouais, mais c'est parce que je suis grand que vous baissez votre store quand je passe, par exemple. »
Très bien, mais c'est...
Mais il ne pouvait pas être plus petit, de toute façon.
Juste un mot, on a encore le temps.
Ah oui, bien sûr. Je voudrais aussi qu'on revienne juste sur le troisième petite histoire du roman qui s'appelle il y a une contre-pétrie, le petit écossard à certains flancs. Là, c'est pareil, tu t'introduis dans une famille bourgeoise qui porte même la particule. Tu es à la fois la femme et le mari.
Ouais, hein,
donc, il permet aussi de présenter un certain nombre de...
Mais ce roman, j'ai voulu aussi que ce soit un jeu autour du jeu. Hein. La dernière phrase de la quatrième de couvre, c'est « Vous y apprendrez finalement que J.E. est un auteur. » Ce qui est une phrase, enfin, ce qui est une plaisanterie autour de « Je est un autre. Hein. » « Je est un auteur. » J'en avais un peu... J'ai eu quelques problèmes avec des gens qui me reprochent toujours d'écrire sous « Je ». Tu vois, j'écris jamais sous « Il ». Voilà, j'écris sous je. Donc je suis la femme machin, je suis là. Et puis là, bon, c'était une demi-plaisanterie parce que je sais pas si t'as marqué, mais c'est un pamphlet ce truc là. Hein. On voit très bien qui est visé. Normalement, on a dû le reconnaître. Hein. Et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il paraisse un peu plus tôt ce livre. Et alors là, voilà, il y a une femme bourgeoise, il y a un homme, ils ont deux enfants, enfin, bon, ils ont une vie de grand bourgeois, quoi. Et lui, il pense qu'au pognon, et elle, un peu moins quand même, mais pas jusqu'au point de remettre en cause vraiment, quoi. Enfin, et donc, écoute, il y a quelqu'un qui m'a dit un compliment sur ce livre, il m'a dit, le dernier roman, j'ai trouvé ça très balzacien. Il sous-entendait que j'ai eu quelques talents à décrire ce que c'était qu'un milieu bourgeois.
Il y a une belle description dès le début de voir la découverte par le mari de quand ils sont invités dans leur famille de cette voiture qui se trouve et de l'importance que peut revêtir une très belle voiture et quand malheureusement on en a une moins belle, ça peut rendre quelqu'un très malade. Voilà. C'est le cas de lui et je crois que ça existe. C'est un peu caricatural peut-être,
mais pas
complètement. Autre chose, Pascal.
Bah oui, alors dans mes activités d'éditeur, j'ai édité un truc qui s'appelle Travailler une heure par jour, qui a été écrit par un collectif, Bizi, qui est un collectif du Pays Basque, très très actif, et contre tous les projets pharaoniques du coin, et très politique aussi. Et en fait, le fait que j'ai reçu ce texte a une histoire, c'est qu'en 2007, là, il m'avait tellement énervé, l'autre, celui qui est parti, là, que j'avais décidé de reprendre contact avec Le Seuil pour leur faire rééditer Travailler 2 heures par jour, qui est un bouquin de 1977, vendu à 800 000 exemplaires au travers de la CFDT, quand même. Enfin, la CFDT a beaucoup aidé, parce que c'était, bon, à l'époque, la CFDT, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. voilà. Bon, alors j'avais décidé d'essayer de refaire, travailler 2 heures par jour, le réactualiser, puis le faire reparaître. Simplement en réponse, hein, on va travailler plus pour gagner plus. Hein, c'est toujours la même chose, obsession. Et puis ça s'est pas fait, ouf, au seuil, ils se sont dégonflés, enfin, etc. C'était très long. Mais j'ai quand même bossé, c'est-à-dire j'ai rencontré tous les gens qui avaient écrit le travail 2 heures par jour de 1977, qui étaient des chercheurs, enfin, etc., des gens très intéressants. Et j'étais prêt, quoi, j'avais les interviews, etc. Enfin bon, et personne n'a voulu me faire ce bouquin. Bon, voilà, bon. Et puis un jour, par la poste, j'ai reçu ça, travailler une heure par jour, c'était un fanzine, une espèce de truc relié à la main. Et puis j'ai dit, bah ouais, je le fais. Évidemment, enfin, ça me correspond tellement. Donc, eux, ils ont réécrit travailler 2 heures par jour de 77. Ils l'ont ramené à travailler 1 heure par jour. C'est plein de tableaux, plein de chiffres, plein de machins. On voit que c'est
sont des basses claques, en fait.
Ouais, c'est utopique. Alors là, pour le coup, je défends que ce soit utopique. Je dis pas que c'est nul parce que c'est utopique. C'est utopique, mais ça marche. Ça, il faudrait qu'on se mette tous au boulot. Mais ça marche sur le papier. Une petite restriction. Ça reste utopique parce qu'on n'est pas seul au monde, quoi. Et que, effectivement.
Non, on n'est pas seul au monde.
Voilà. Des projets, sans doute.
Oh, ben, plein. Je vous ai amené. Ah, ben. Voilà, je vous ai amené les 2 derniers bouquins qui sont parus, en fait, de Pascal Pratt. C'est un bouquin de poésie. Bon, voilà. C'est un bouquin d'aphorisme chez un éditeur qui n'est pas mon éditeur historique, qui s'appelle Durand Pérol, qui est un éditeur de Vendée. Et puis, Masvidal sort une nouvelle série, une nouvelle collection de petits livres qui va s'appeler Confetti. C'est des trucs à 2 euros, voilà. Mais avec mes auteurs historiques, c'est des gens qui commencent à avoir une réputation. Et puis voilà, je vous ai amené tout un tas de trucs pour voir.
Moi, j'aime bien travailler 1 heure par jour des Basques. Ça aurait été des Corses, ça aurait été une demi-heure. Alors,
ouais, bah, c'est ça. Ouais.
Ce sera la prochaine émission.
Ah, bravo.
Bon, en tout cas, merci Pascal pour ces réactions, ces coups de gueule. On en a besoin de temps en temps. On a besoin de bouger un peu. Je rappelle un Promenade en lutte. Version intime avec classe aux éditions du Petit Pavé, c'est trois histoires, 3 romans en un seul de Pascal Prats. Étienne, quelques mots
peut-être. Oui, bah oui, Robert Gauthier a écouté très 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 sérieusement, très attentivement. Alors là, on est dans le travail aussi, la prolétarienne, l'union, la ménagère, les coopératives ouvrières de consommation dans la Basse-Loire. Donc aux éditions du Centre d'Histoire du Travail de Robert Gauthier. Donc on le conseille évidemment, autrement on ne serait pas ensemble dans l'émission. Et puis on a reçu un certain nombre de services de presse, dont un peu surprenant, puisque c'est un livre de musique classique bretonne accompagné d'un livre bilingue. Et ce livre est fait par Aldo Ripoche et Michael Baudelaire-Penlaez, qui est un géographe qu'on a déjà reçu dans l'émission. Alors c'est un livre qui prend son inspiration en fait autour de l'idée qu'en 1848, dans toutes les sociétés européennes, lorsqu'il y a eu des grands mouvements révolutionnaires, les musiciens célèbres de l'époque, enfin ceux qui sont devenus célèbres, qui sont restés dans l'histoire de la musique, ont cherché souvent un peu d'inspiration en Hongrie, notamment par exemple en Pologne, dans la tradition, dans le folklore local, hein, on le sait avec Liszt, avec Brahms, etc. Et des musiciens bretons également ont travaillé, ils sont peut-être un peu moins connus, et donc la Cobbrays a réuni une douzaine de ces musiciens, dont un qui est assez connu quand même, c'est l'Admirou. Et c'est un disque, on va donc l'écouter puisque ça vient d'arriver, je pense qu'on passera quelques extraits sur Radio Alternante, hein. C'est la Cobresse qui fait ce travail. Et puis un polar des éditions Yoran and Banner, les damnés de Sealar, je pense que ça se dit comme ça, c'est un polar qui se déroule à la fin du XVIIIe siècle en Irlande, où les Irlandais commencent à poser un petit peu les premières pierres de ce mouvement d'indépendance qui aboutira au XXe siècle. C'est de David Le Yawank, c'est un jeune écrivain breton aux éditions Yoran and Banner. Hein, et puis on a reçu alors un livre un peu surprenant, si vous aimez les cachalots. Moi, on m'a souvent fait le mot allô, cachalot, hein, donc c'est assez. Et c'est un livre un peu surprenant là de Jonas à Moby Dick, Variation autour d'un cachalot. Alors on a dedans la coopérative Brest a pris des extraits de tout un tas d'auteurs. Hein, on n'est pas que avec Moby Dick. Il y a énormément d'auteurs, des auteurs contemporains qui sont connus. C'est un livre qui est très bien illustré, qui peut à la fois intéresser les gens qui s'intéressent à l'écriture parce qu'il y a des passages qui sont d'auteurs de grande qualité, qui peut intéresser les scientifiques avec une iconographie sur les cétacés, et qui peut intéresser également tout simplement les jeunes pour connaître un petit peu ce monde. Variation autour d'un cachalot, donc de Jonas Amobilic, une édition de la Cope Breeze.
Oui. Comme on reste quelques secondes, je crois que tout à l'heure, tu souhaitais parler peut-être de l'iconographie, peut-être du livre de Robert Gauthier. On a deux minutes, on peut peut-être en parler.
Alors, Robert, justement, je voulais te demander un peu d'où est-ce que viennent toutes ces photos en noir et blanc, parce que c'est quand même assez extraordinaire de voir tous ces gens qui ont des moustaches, un peu comme les coureurs du Tour de France en 1915, ou 10 plutôt. Et d'où est-ce que ça vient tout ça?
Disons que l'iconographie vient du Centre du Travail, en partie.
Oui, vous les avez.
On les avait, oui. C'est ça. C'est donc les fonds des militants qui ont été déposés, donc on a puisé dedans. Une autre partie provient des archives départementales, des archives municipales qui ont de la médiathèque, qui n'ont pas refusé de nous aider dans l'iconographie. Et on a puisé dans les fonds qui sont déposés au Centre du Travail, que nous avons récupérés justement pour mettre en œuvre la partie histoire de l'économie sociale et solidaire que l'on a l'intention de développer. Donc c'est des fonds qui viennent du professeur Lasserre, d'Hirschfeld, etc., etc. Donc ce sont des fonds qui sont disponibles.
Et ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un travaille comme ça, un peu indépendamment sur un sujet comme celui-là, s'il vient vous voir, vous lui montrez, vous lui...
Voilà, il faut... C'est Xavier Nerrière qui se charge du fond, et c'est lui qu'il faut contacter. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour des illustrations.
Dans les illustrations, il y en a juste une, là je prends une seconde, mais qui m'a interrogé, alors je te pose la question puisqu'on a une minute. À Saint-Nazaire, en 1925, il y a eu les obsèques d'un Gauthier, qui ont été des obsèques très populaires. Est-ce qu'il y a un lien de famille avec...
Henri Gauthier, il s'agit d'Henri Gauthier.
Oui.
Henri Gauthier est très intéressant parce qu'en fin de compte, c'est un homme à plusieurs visages. Et c'était un militant, il est né à Nantes d'ailleurs. Je crois que c'est pas son vrai nom, Gauthier. C'est le nom de son père adoptif.
Ah, d'accord. Ouais.
Et il est parti. C'est ce qu'on appelle un almaniste. Et Jean Alman, quoi, le militant révolutionnaire Jean Alman. Et il est parti donc travailler comme chaudronnier. Il me semble que c'est chaudronnier à Paris. Et il est revenu dans les années 1896 à Saint-Nazaire. Et il a pris en main le mouvement ouvrier. Le mouvement syndical. Il a été permanent de la bourse du travail de 1900 à 1919, et ça a été le père spirituel de François Blanchot, le maire de Saint-Nazaire.
Le maire de Saint-Nazaire, oui.
Merci Robert Gauthier, merci Pascal Prats pour votre présence aujourd'hui. Alors si vous prenez cette émission en cours, je rappelle qu'elle sera en podcast très rapidement sur le site d'Alternante FM, donc vous pourrez la retrouver au moment où vous le souhaiterez.
Oui, ben c'est tout. On regrette encore une fois que Martial Ménard n'ait pas été avec nous. Je crois que ça l'aurait beaucoup intéressé. On rappelle son dictionnaire aux éditions de la Palatine, dictionnaire français-breton.
Voilà. Merci à tous et bonne écoute des programmes d'Alternante. Et merci à Julien qui a réalisé cette émission. À très bientôt.
Merci à vous.